Vous avez une question sur le logement, l'Adil 48 y répond sur 48FM.
Adil 48,
l'agence départementale d'information sur le logement.
Alors la question, en a-t-il le droit ?
Effectivement, du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, nous sommes là, vous pouvez nous contacter par courrier, par mail ou passer à l'agence, c'est encore le mieux.
Ce n'est que le logement, mais tout le logement.
Tout de suite, la minute de l'Adil.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre chronique La Minute de la Deal sur 48FM où chaque semaine une juriste de l'agence départementale d'information sur le logement de la Lozère répond à l'une de vos questions sur le thème du logement et de l'habitat avec des thèmes nombreux et variés. Et d'ailleurs vous pouvez aussi poser une question sur, pour cette chronique en adressant un mail à adil48@orange.fr. Et aujourd'hui c'est une question sur les normes d'accessibilité en cas de construction et c'est Aurélie Pouligala, juriste à la Deal 48 qui vous répond. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Alors la question de notre auditeur. J'envisage de faire construire un grand bâtiment en deux parties qui comprendrait d'un côté ma résidence principale et de l'autre une partie composée de deux appartements que je souhaiterais mettre à la location. Je ne sais pas si ces appartements doivent respecter les normes d'accessibilité ou si je peux m'en exonérer. Quelles sont mes obligations en la matière ?
Alors, c'est vrai que sur les normes d'accessibilité, on entend plein de choses parce que c'est devenu l'accès au logement et donc la question de l'accessibilité sont devenus un enjeu sociétal majeur. Ça a même été reconnu comme un droit universel. Donc, on entend plein de choses différentes. C'est vrai qu'on a une loi sur l'accessibilité qui date de 2005 qui était assez sévère, on va dire ça comme ça, qui a été assouplie en grande partie en 2015 et qui va venir concerner tout ce qui va être maison et appartement, donc locaux à destination d'habitation, neuf en construction. Donc la première des questions que j'ai envie de dire qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle est la définition dans le logement qui serait accessible ? Et donc on a une réponse qui nous est faite par la loi, qui nous dit que est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur, donc ça c'est important parce qu'on voit que ça concerne aussi les visiteurs et pas forcément simplement les habitants. Donc, permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et aux équipements, d'utiliser ces équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou à défaut présenter une qualité d'usage équivalente. Ça, c'est le code de la construction et de l'habitation qui nous le dit. Donc, on voit effectivement qu'on est sur des notions qui sont assez sévères, si on peut dire ça comme ça, dans la mesure où vraiment l'idée, c'est de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir exactement la même utilisation dans leur logement que des personnes qui ne seraient pas dans cette situation-là. Donc, pour savoir si notre auditeur il va être concerné par ces normes d'accessibilité ou pas, déjà, il faut se poser la question au sein des logements neufs. Est-ce qu'on est sur un bâtiment d'habitation collectif ou est-ce qu'on est sur un bâtiment d'habitation à usage privatif, une maison individuelle, puisque les règles d'accessibilité ne vont pas forcément être les mêmes si on est sur un habitat collectif ou un habitat individuel.
Et là, il est un peu sur les deux.
Alors, bah justement, on va voir comment est-ce qu'on peut qualifier ça en fonction des règles qui nous sont données par la loi. La distinction entre bâtiment d'habitation collectif et maison individuelle, elle se base sur une définition des bâtiments d'habitation collectif. C'est-à-dire qu'on a la définition des bâtiments collectifs, et donc si c'est pas collectif, c'est privatif. On considérera qu'un bâtiment d'habitation est collectif dès lors que trois critères vont être réunis. Le premier, c'est la présence d'au moins deux logements dans un même bâtiment. Le deuxième point, c'est une superposition même partielle, directe ou indirecte, de ces logements. Alors, ça veut dire quoi, même partielle, directe ou indirecte ? C'est dans l'idée, par exemple, j'ai un bâtiment qui comprend trois étages. J'ai un local d'habitation au rez-de-chaussée et au second, et au premier, j'ai des bureaux. Pour autant, on va quand même considérer qu'il y a une superposition indirecte des logements. Donc, on va bien être... le deuxième critère sera rempli. Et le troisième point, c'est une desserte de ces logements par des parties communes bâties. C'est-à-dire que, si j'illustre un peu mon propos, si j'ai un bâtiment avec un rez-de-chaussée, un premier étage, j'ai un local d'habitation à chaque niveau, mais j'ai une entrée individuelle, c'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, il a sa propre porte d'entrée, et pour accéder au premier étage, j'ai un escalier extérieur, on ne sera pas sur des parties communes bâties, donc on sera pas, le troisième critère ne sera pas rempli. Voilà. Donc, lorsqu'on a ces trois points qui sont réunis, on est sur un bâtiment d'habitation collectif. Sinon, on sera sur un bâtiment d'habitation privatif. Donc, pour notre auditeur, si les deux appartements qu'il veut construire pour louer se situent l'un au-dessus de l'autre avec une entrée commune à ces deux appartements, on sera bien sur une notion d'habitat collectif. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'il respecte effectivement des normes d'accessibilité à la fois dans les deux logements, mais aussi dans les parties communes. A contrario, si les deux appartements sont par exemple accolés l'un à l'autre ou comme on vient de le dire, ils ont chacun leur propre entrée indépendante, on ne sera pas sur une notion d'habitat collectif, on sera sur deux maisons individuelles, donc avec une notion d'accessibilité qui sera un peu moins forte. Voilà. Concrètement, quelles sont les obligations spécifiques à respecter ? Alors, elles sont nombreuses, donc on renvoie habituellement sur la circulaire. Alors, c'est la circulaire, c'est un peu barbare, mais DGUHC du 30 novembre 2007, qui va venir lister l'ensemble des obligations auxquelles on doit satisfaire quand on construit un bâtiment d'habitation neuf. Et donc, on va retrouver thématique par thématique des choses à respecter, par exemple sur la question des stationnements des véhicules, de la circulation intérieure des logements, des caractéristiques minimales intérieures des logements, sur ce qu'on appelle les pièces de l'unité de vie, donc la pièce de vie, la chambre, etc. Et l'idée, c'est que pour chacune de ces catégories, on va avoir des caractéristiques minimales à respecter, comme par exemple le fait d'avoir des portes qui s'ouvrent à 90 degrés pour pouvoir laisser passer un fauteuil roulant, une salle d'eau qui va offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre, toujours dans l'idée voilà, de permettre une circulation à une personne qui serait en fauteuil roulant. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, par défaut, dès lors que je construis un bâtiment neuf à usage d'habitation, je suis soumis aux règles d'accessibilité. La seule exception, c'est lorsque je fais construire pour moi-même. Voilà, c'est la seule exception. La construction pour l'usage du propriétaire sort du champ d'application de l'accessibilité, sinon on y est soumis. Voilà.
Voilà, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Si on a un bâtiment qu'on veut louer, il faut qu'on ait ses normes.
On ira forcément vers des normes qui vont être de plus en plus sévères, puisque c'est encore une fois un enjeu majeur. Donc, il vaut mieux s'en préoccuper tout de suite, effectivement. Le bon conseil, d'ailleurs, c'est peut-être, une fois que l'aspect juridique a été vu sur le projet, de se tourner vers le CAUE, donc le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, qui, comme l'a dit, est une association qui délivre des informations et des conseils gratuits, et qui est très compétente en matière architecturale, donc qui peut aider à la conception du projet sur l'aspect de vue accessibilité dès le début, avant même qu'on pense les plans, etc. Ça peut être un accompagnement judicieux.
Voilà, et vous demandez Caroline au CAUE, qui est une excellente architecte. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la DIL, rubrique questions, réponses et en podcast sur les deux sites internet de la DIL et de 48FM. Si vous souhaitez poser une question relative au logement, donc je vous l'ai dit en début d'émission, je vous le répète, c'est sur mail sur adil48@orange.fr. Également, pour des conseils gratuits et personnalisés sur le logement, vous pouvez contacter la DIL au 04 66 49 36 65 ou en venant vous rencontrer directement au 12 bis avenue Foch tous les jours, sauf le vendredi après-midi ou dans l'une de vos permanences tenues les mercredis après-midi. Des permanences qui sont où, Aurélie ?
Alors, dans l'ordre, pour une fois, Langogne, Marvejols, Florac et Saint-Chély, tous les mercredis après-midi.
Voilà, et vous avez également une page Facebook, page Adil de la Lozère.
Tout à fait, on est connectés.
Voilà, merci Aurélie.
Avec plaisir.